Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Alors nous avons laissé Chateaubriand, élu à l'Académie française le 20 février 1811. Bon, élu petitement quand même, hein, parce que c'est à une voix de majorité. Bref, le 31 mars 1814, il y a des affiches qui annoncent la mise en vente d'un ouvrage du vicomte de Chateaubriand. Et le titre de l'ouvrage, c'est « De Bonaparte et des Bourbons ». Eh bien, de toutes les œuvres politiques qu'il a écrites, Chateaubriand pense que c'est la meilleure. Il assure que Louis XVIII a dit que ce livre a été plus précieux qu'une armée de 100 000 hommes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce que Louis XVIII ne pouvait pas supporter Chateaubriand. Napoléon est parti en exil. Le 12 avril, le comte d'Artois donc fait son entrée dans Paris. Le comte d'Artois, c'est le plus jeune frère de Louis XVIII. Hein. Et lui, Louis XVIII, il n'arrive qu'à la fin du mois. Une commission prépare la charte du nouveau gouvernement, parce qu'en principe, on va avoir une monarchie constitutionnelle. Ça, c'était le dada de Chateaubriand. François René, c'est son prénom, hein, je vous rappelle, n'en fait pas partie. Alors, oui, il est pour la liberté de la presse, et ça plaît pas du tout à Louis XVIII. Ce dernier établit la liste des nouveaux pairs de France. Eh bien, Chateaubriand, qui pensait y figurer, n'y est pas. C'est une faute de la part de Louis XVIII quand même, et la Restauration va en commettre bien des fautes. Chateaubriand est un des premiers esprits de son temps. Il a compris, lors de son séjour en Angleterre, c'est là que lui vient l'amour de la monarchie constitutionnelle, hein. Il a compris donc les mécanismes de cette monarchie. Et il pense, lui, qu'il peut rendre de grands services. Seulement Louis XVIII, lui, se méfie des hommes de lettres. Et puis dans ce cas particulier, on peut même dire qu'il y a un petit peu de jalousie, parce que le roi se pique d'écrire, seulement il est quand même assez intelligent pour se rendre compte qu'il n'arrive pas à la cheville de Chateaubriand. Alors même s'il est admiré, s'il est même encensé, sa situation financière est catastrophique. Ça, je vais vous en parler sans arrêt. Bon, il vient voir Talleyrand pour lui demander une place. Alors on peut se dire, il fallait qu'il soit acculé parce qu'il avait dit beaucoup de mal de lui précédemment. Alors ce dernier lui accorde finalement une place d'ambassadeur en Suède. Il remercie, mais il dit qu'il ne va pas partir tout de suite. Le 27 novembre 1814, il publie « Réflexions politiques ». Louis XVIII apprécie quand même la lecture, si bien que sa cote remonte. Et voilà que Napoléon débarque. Chateaubriand alors fonce chez le roi. Il lui dit de tenir bon ne serait-ce que 3 jours. Eh bien, Louis XVIII, figurez-vous, il n'a pas du tout envie de mourir, même glorieusement. Il se sauve. Napoléon arrive. François René et sa femme alors quittent Paris le 20 mars 1815, direction Bruxelles. Le roi, lui, il est à Gand. Alors Chateaubriand s'y précipite, il propose de former un gouvernement et de résister. Alors dans ce nouveau gouvernement, qui évidemment n'a pas de pouvoir, hein, le voilà nommé ministre de l'Intérieur. Il se fait apprécier du roi, qu'il ne quitte pas. C'est alors que parvient la nouvelle de Waterloo. Le roi rentre à Paris, il promet une place à François René. Mais celui-ci gâche tout en restant à Gand avec Talleyrand. Et Louis XVIII n'aime pas du tout Talleyrand. Tout le monde rentre à Paris. Talleyrand, à ce moment-là, voit que il sera sauvé s'il s'allie avec Fouché. Ils le font. Ils créent un gouvernement, d'où, bien évidemment, Chateaubriand est exclu. Et vous savez qu'il se venge avec cette phrase célèbre. En voyant entrer Talleyrand soutenu par Fouché, il dit « Entre alors le vice appuyé sur le bras du crime ». Alors il est quand même difficile de ne pas attribuer une récompense à quelqu'un qui s'est montré si dévoué au roi. Il devient donc ministre d'État et président d'un collège électoral. Donc financièrement, les choses vont beaucoup mieux. Le 17 août, il est nommé pair de France avec un traitement de 12 000 francs. À chaque fois que je vous dis traitement, c'est toujours par an. Louis XVIII s'entiche alors d'un jeune homme qui s'appelle Decazes et qui, en juillet 1815, avait accepté le poste de préfet de police et qui maintenant devient ministre. D'ailleurs, Louis XVIII va le considérer pratiquement comme son fils. Il n'a pas d'enfant, Louis XVIII. La liberté individuelle et celle de la presse sont suspendues. Alors, Chateaubriand estime que le roi a plus de puissance que les parlementaires, ce qui est contraire, bien sûr, à l'esprit de la monarchie constitutionnelle. Il pense que la monarchie constitutionnelle doit être absolument sur le modèle anglais. Il écrit donc dans ce sens, si bien que Decazes essaie d'arrêter la publication de, le titre de l'œuvre, c'est « La monarchie selon la charte ». Il en ordonne la saisie, c'est illégal parce que la publication de plus de 20 pages, il n'y a pas besoin d'autorisation. Mais il le fait quand même, il contourne la loi. Alors Chateaubriand écrit une longue lettre de protestation. Il dit « Si je n'ai pas le droit de publier mes opinions, nous saurons si la France doit désormais être gouvernée par la police ou par la Constitution. » Decazes est blessé en privé, mais le roi couvre la faute de son ministre. Il punit Chateaubriand du scandale en le rayant de la liste des ministres d'État. Alors c'est à chaque fois une catastrophe pour les Chateaubriand, hein, lui et sa femme, parce qu'évidemment il y a un manque de revenus. François René, lui, fait figure de héros et de martyr, mais il se retrouve bien sûr plongé dans les difficultés matérielles. Le dévoué, le moine, c'est quelqu'un qu'il a embauché et qui s'occupe de ses comptes. Heureusement, parce que Chateaubriand, il est incapable de le faire. Le bilan est désastreux. Alors, il veut vendre la vallée au loup, c'est la seule propriété qu'il ait. Hein. Il n'arrive pas à la vendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vend sa bibliothèque. Ce n'est qu'au printemps 1818 que Mathieu de Montmorency, finalement, se porte acquéreur du domaine de la vallée au loup. Et voilà que Chateaubriand s'éprend de Madame Récamier. Il semble, on ne sait pas au début qu'elle soit devenue sa maîtresse. C'est une lettre du 22 mars 1819 qui le laisse supposer. La politique continue à occuper Chateaubriand et au cœur de l'été 1817, il écrit un libelle intitulé « Du système politique suivi par le ministère », sous-entendu le ministère Decazes. Évidemment, il démolit le ministère. Hein. Il définit un solide programme d'opposition. Et si bien qu'on peut dire que François René devient chef de parti. Le texte expose avec une grande intelligence des vérités politiques. Il intervient souvent à la Chambre des pairs. Beaucoup de députés et de pairs adoptent ses vues. Le comte d'Artois, donc le jeune frère de Louis XVIII, un mécontent de la politique libérale de son frère, avance l'argent pour que des royalistes fondent un journal qu'on va appeler « Le Conservateur », qui en quelques semaines a un succès absolument considérable. Chateaubriand y écrit des pages tout à fait excellentes. Dans la nuit du 12 au 13 février 1820, le duc de Berry, alors c'est un fils du comte d'Artois, hein, c'est le troisième dans l'ordre de succession. Eh bien, dans cette nuit, en se rendant à l'opéra, il est assassiné. C'était le seul mâle capable de donner un héritier à la couronne. Sa femme est enceinte. Dans le journal Le Conservateur, Chateaubriand écrit que le gouvernement de Decazes, par ses lois, a permis cet assassinat. Et devant l'hostilité de la famille royale et le mouvement d'opinion auquel Chateaubriand a collaboré, Decazes, finalement, est obligé de démissionner. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. qui lui succède? C'est le duc de Richelieu, mais ça ne change pas grand-chose au gouvernement. Le Moniteur cesse de paraître. Chateaubriand reçoit alors du comte d'Artois 100 000 francs pour écrire une biographie du duc de Berry. Le 29 septembre, la duchesse met au monde un garçon que l'histoire va connaître sous le nom du comte de Chambord, mais il ne règnera pas. Aux élections de 1820, les royalistes ont la majorité. On peut dire que ce résultat est dû en partie à l'action de journaliste politique de Chateaubriand. Louis XVIII ne veut pas entendre parler de lui dans son gouvernement. Il pense que le mieux, ça serait bien de l'éloigner. Alors, comment faire pour l'éloigner? Eh bien, on va le nommer ambassadeur. Ce sera Berlin. Finalement, il n'y reste qu'une centaine de jours. Et quand il revient, Louis XVIII le réintègre dans son titre de ministre d'État et y ajoute même le ruban de la Légion d'honneur. Comme François René continue de s'agiter, eh bien on dit il faut encore l'éloigner. Et on le nomme encore ambassadeur, mais cette fois-ci ce sera à Londres. Et là, c'est un poste magnifique, parce que le traitement est de 300 000 francs. Céleste, c'est la femme de Chateaubriand, hein, décide de ne pas accompagner son mari, qui lui a fait une description du climat de Londres très brumeux, très humide. Louis XVIII, donc, il ne lui donne pas d'ordre précis. Alors finalement, Chateaubriand loue un bel hôtel près de Regent Street. La cour d'Angleterre lui réserve un grand accueil. Le roi à l'époque, c'est George IV. Hein. C'est à Londres que son cuisinier invente ce qu'on appelle le Chateaubriand, c'est-à-dire une tranche de filet cuite entre deux tranches d'aloyau. Alors bien sûr, revoilà Chateaubriand reparti dans ses conquêtes. Le brillant parvient à Madame Récamier, qui menace de se retirer en Italie et qui espace ses lettres. Alors bien sûr, il répond, je vais ajouter tout à fait hypocritement, comme il n'a pas reçu d'instructions précises, eh bien, il peut interpréter à son gré les problèmes internationaux qui se présentent. Il pense que depuis 1815, la France est bien effacée diplomatiquement. Il veut mettre fin à cette situation. Le problème qu'il met au premier rang est celui de l'intervention de la France dans les troubles qui agitent l'Espagne. Chateaubriand pense qu'il faut rétablir l'autorité royale dans ce pays. Je vous rappelle que c'est un frère de Napoléon qui avait été nommé roi d'Espagne, tout à fait incapable. Le roi qui avait été évidemment éloigné, c'est Ferdinand VII. Donc il revient, mais le pauvre Ferdinand VII, il n'est pas très capable. Les colonies américaines de l'Espagne ne vont pas pouvoir être sauvées, dit Chateaubriand, à moins qu'on mette à leur tête des princes de la maison de Bourbon. François René, alors, en parle avec Lord Londonderry et il écrit à Paris des dépêches qui sont très soigneusement composées avec un grand souci de style. En juillet 1822, après le massacre de la garde royale, il écrit « Si les royalistes ne triomphent pas en Espagne, nous toucherons certainement à une crise qui nous obligera à prendre une résolution ». Il souhaite évidemment que la France intervienne en Espagne. Pour régler les problèmes qu'il y a en Espagne, mais qu'il y a aussi en Italie, ce qu'on appelle la Sainte Alliance, c'est-à-dire Prusse-Autriche-Russie, a prévu un congrès à Vérone, en Italie. Après bien des atermoiements, Louis XVIII nomme Chateaubriand plénipotentiaire à ce congrès. Alors il quitte Londres le 8 septembre 1822, il passe par Paris, et il va d'ailleurs consacrer un gros ouvrage en deux volumes à ce congrès. Il arrive à Vérone le 13 octobre 1822. Alors au début, il n'y a pas d'influence du tout. Pourquoi? Eh bien parce que le roi, qui était quand même un brin hypocrite, hein, il a envoyé en même temps Mathieu de Montmorency pour traiter avant Chateaubriand. Et Montmorency, ben c'est un médiocre. Alors Chateaubriand prend le taureau par les cornes et demande au tsar de le rencontrer et de rencontrer aussi Metternich, qui est donc le ministre autrichien. Il les rencontre et il fait valoir l'idée d'une intervention de la France en Espagne. Il revient à Paris, où Montmorency, qui est ministre des Affaires étrangères, est remercié. Et qui obtient la place proposée par le roi lui-même ? Chateaubriand. Il prend très au sérieux sa fonction. Le 28 janvier, Louis XVIII, dans son discours du trône, annonce le rappel de l'ambassadeur de France à Madrid et la décision d'intervenir militairement en Espagne. Chateaubriand a gagné. L'idée est mal acceptée à Londres, ils ne sont pas trop contents. Chateaubriand prononce alors un discours à la Chambre des députés. Il cause une très grande impression, c'est un excellent orateur. La droite est enthousiasmée par la netteté et le courage du discours. Le 15 mars, le duc d'Angoulême quitte donc Paris, franchit la Bidassoa avec 95 000 hommes et 21 500 chevaux, 78 canons. Il arrive à Madrid, mais le roi n'y est pas, parce que les insurgés l'ont conduit à Cadix, il y est prisonnier. On prend le fort de Trocadéro, et puis Cadix, et on libère le roi. Le roi, il est rétabli sur son trône. L'armée française, alors, revient à Paris, en triomphatrice. Chateaubriand se montre très fier de son action. Céleste, sa femme, donc, s'est installée au ministère, parce que maintenant qu'il est ministre des Affaires étrangères, il a, évidemment, un appartement. Il faut dire qu'elle se montre une fastueuse maîtresse de maison. En plus de ses occupations ministérielles, François-René, comme toujours, s'occupe des dames. Alors, je ne vais quand même pas m'étendre parce que je n'en finirai pas. Mais bon, je vais vous dire par exemple. D'abord, il y a Fortunée Hamelin, une créole de 47 ans. Puis elle est supplantée par Cordelia Gréfules, épouse du maréchal de Castellane. Mais en même temps, il n'ose pas délaisser Madame Récamier. Mais un jour qu'il se présente chez elle, il trouve porte close. Elle est partie pour l'Italie, voilà. Et le public n'est pas dupe de la vie que mène Chateaubriand. Il a déjà 55 ans, hein. Le public, finalement, il applaudit à l'attitude de Madame Récamier. Les lettres qu'il lui envoie ne reçoivent pas de réponse. Pénétré de sa valeur personnelle et de la justesse de ses vues, Chateaubriand ne s'est pas rendu compte qu'il a été nommé ministre finalement par défaut parce qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Et l'ennuyeux, c'est quand même qu'il a une attitude hautaine. Il se croit bien supérieur au ministre qui actuellement est le ministre Villèle. Si bien que celui-ci, il n'est pas content évidemment. Louis XVIII déteste finalement Chateaubriand et encore une fois, il s'agit de l'éloigner. Si bien qu'un complot se trame dans le gouvernement pour l'abattre. Alors je vous passe tous les dessous, c'est pas très joli. Le dimanche 6 juin 1824, une ordonnance signée du roi annonce à François René qu'il n'est plus ministre. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Je suis toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle de la vie de Chateaubriand. Donc il vient d'être remercié. Il en est absolument assommé. Alors il déménage, il n'a plus évidemment l'appartement, il déménage rue de l'Université et dit à ses deux chattes qu'elles ont fini de faire les belles dames et qu'il faut maintenant songer à se nourrir de souris. Ben oui, parce que le traitement n'est plus là. L'opinion aussi est secouée. Les visites sont nombreuses sur une université. Chateaubriand décide alors de se venger et il entame une polémique qui va durer 3 ans. Le ministre Villèle a exprès rétabli la censure, si bien que François René fait publier sous le manteau une brochure qui est intitulée « De la censure que l'on vient d'établir ». Louis XVIII, on est en 1824, Louis XVIII, qui avait une très très mauvaise santé, est en train d'agoniser. Alors, il poursuit avec un autre libelle qui s'intitule « Le roi est mort, vive le roi ». Louis XVIII meurt. Qui lui succède ? Eh bien, le dernier frère, qui prend le nom de Charles X. Et immédiatement, il abolit la censure pour se faire bien voir, si bien que tout le monde est content. Seulement, ça ne dure pas, parce que Charles X veut tout simplement rayer la Révolution et en revenir à l'Ancien Régime. D'ailleurs, il veut se faire sacrer à Reims. Eh bien, le sacre a lieu. Et Chateaubriand s'y rend parce qu'il est pair de France et chevalier du Saint-Esprit. Et alors là, lors du sacre, voilà que le roi lui prend les deux mains dans un geste de grande bienveillance. Alors le vicomte, quand je vous dis le vicomte, c'est Chateaubriand bien sûr, hein, ne se contente pas de bonnes paroles. Il pense que la politique conduite par Villèle conduit la monarchie constitutionnelle à sa perte et qu'il faut destituer le ministre et le mettre lui à sa place. Et comme le roi a semblé tout à fait content de lui, il espère. Ah, Madame Récamier revient d'Italie. Chateaubriand se précipite chez elle, et en attendant, ben, les problèmes financiers demeurent. Alors que fait-il pour avoir de l'argent ? Eh bien, il écrit, en espérant un éditeur. Son neveu, Louis de Chateaubriand, se propose de l'aider. Alors, par orgueil, il refuse. Il fera toujours ça, hein. Et voilà que la chance se présente sous la forme de 2 libraires qui s'appellent L'Advocat et Dufay. Le contrat est signé le 30 mars 1826. François René leur cède la propriété de ses œuvres complètes et pour prix de cette cession, il reçoit 550 000 francs. Énorme, hein. Mais il ne les reçoit pas d'un seul coup, hein. Il en reçoit une partie et puis le restant par annuité. Il s'installe alors dans un pavillon rue de l'Enfer et c'est là qu'il va composer presque entièrement les mémoires d'outre-tombe. Alors qu'il se croit financièrement à l'abri, les libraires font faillite. Il ne verra pas les 170 000 francs qui restaient à recevoir. En attendant, il continue ses attaques contre la loi sur la liberté de la presse. Il va jusqu'à écrire au roi pour le prévenir que la révolte gronde et qu'il doit changer de ministre. Or, Charles X considère que ses ministres ne sont responsables que devant lui. Ben, c'est une erreur, hein, parce que la monarchie va en périr. Il n'écoute pas les conseils du vicomte. 1827, nouvelles élections. Les royalistes n'ont que 200 sièges sur 433. Villèle donne sa démission au roi, qu'il accepte le 3 janvier 1828. Le triomphateur, c'est Chateaubriand. L'offensive qu'il a menée depuis sa disgrâce de 1824 a porté ses fruits. Enfin, le 6 juin 1828, François René est nommé ambassadeur, parce qu'on veut encore l'éloigner, à Rome. Le roi ne veut pas de lui dans son gouvernement. Donc il part avec sa femme, le 11 septembre 1828. Il est très bien reçu et on peut dire qu'il vit dans le faste. Ça n'a rien à voir avec sa première ambassade à Rome où il était l'obligé du cardinal Fesch. Le soir, on reçoit Chateaubriand, ébloui, ses secrétaires, en racontant ses souvenirs. Il écrit beaucoup à Madame Récamier, tous les jours, mais aussi à d'autres dames. Alors, à Rome, il y a un pape, c'est le pape Léon XII, qui décède le 10 février 1829. Il va donc y avoir un conclave pour élire, bien sûr, un nouveau pape. Et bien, pour un ambassadeur au Vatican, c'est vraiment le conclave, le couronnement d'une carrière. Il se voit déjà faisant un pape. Élection du cardinal Castiglioni. Eh bien, Chateaubriand l'avait mis sur une liste de 5 possibles. il devient Pie VIII et le vicomte triomphe. Alors il demande un congé après la semaine sainte. Il part le 16 mai 1829 et il trouve à Paris une situation politique explosive. Charles X est de plus en plus impopulaire. Chateaubriand, qui a toujours besoin d'argent, pense que le mieux c'est de retourner à Rome. Pour s'y rendre, il passe par Cauterets, dans les Pyrénées. Alors ça n'est évidemment pas le chemin le plus court, mais c'est parce qu'il y rencontre une de ses admiratrices. Et voilà que les choses se corsent. Charles X a renvoyé ses ministres. Il choisit comme chef du nouveau ministère le prince de Polignac. Ce dernier abomine la charte. Il pense que la royauté doit être de droit divin, comme avant la Révolution. Pour le roi, le prince lui obéira inconditionnellement, pour la seule raison que la volonté du roi équivaut pour lui à la volonté de Dieu. Bien évidemment, les députés sont contre cette situation, et quand Chateaubriand l'apprend, il décide de revenir à Paris. Il a été autrefois l'ami de Polignac, mais lui, il a évolué. Il a compris, on peut dire presque avant tout le monde, que la France penche vers des règles démocratiques et qu'il est impossible de rester dans l'esprit d'autrefois et de braver le corps électoral. Alors arrivé à Paris, François René donne sa démission. Le roi refuse de le recevoir, il dit qu'il le fera si Chateaubriand revient sur sa décision. Eh bien le vicomte tient bon. Le discours du trône prononcé par Charles X le 19 mars 1830 laisse entendre que le roi et Polignac se préparent à l'action. Si bien que cette menace provoque une résistance parlementaire. Eh bien le roi, il dissout la chambre. Alors nouvelles élections. Et Charles X perd ces nouvelles élections. Il doit faire constituer la nouvelle formation par un membre de l'opposition. Chateaubriand se considère comme la seule personne capable de dénouer la crise. Eh bien, le roi dissout la nouvelle chambre avant qu'elle ne se soit réunie et prévoit d'autres élections pour le mois de septembre. Je vous dis tout de suite qu'elles n'auront pas lieu. Il suspend la liberté de la presse, il révoque de nombreux fonctionnaires. Eh bien, bien sûr, c'est l'insurrection. Si bien que la famille royale se sauve, le duc d'Orléans est maître de la situation. Il fait appeler Chateaubriand et lui demande son avis. Il dit que le roi et son fils ayant abdiqué, le roi c'est le petit Henri, c'est-à-dire le fils du duc de Berry qui a été assassiné. Alors le duc il dit ceci, d'accord, vous duc d'Orléans, eh bien vous serez le régent. Ainsi les choses restent dans l'ordre. Sa solution a l'avantage de ne pas diviser les royalistes. Elle respecte la légitimité et elle accorde au duc d'Orléans un pouvoir qu'il est capable d'exercer. Seulement la Chambre offre la couronne au duc d'Orléans qui l'accepte. Il devient Louis-Philippe, mais attention, roi des Français et non pas roi de France. Il propose alors à Chateaubriand sa collaboration. Mais lui, il pense qu'alors il retournerait sa veste, si bien qu'il refuse. Il se félicite d'une résolution qui va donc ruiner sa carrière politique. En fait, il n'est à son aise que dans l'opposition. Sauf peut-être si on lui avait offert le pouvoir suprême. Le 7 août 1830, il prononce devant la Chambre des Pairs un discours que l'on peut considérer comme l'un des sommets de l'éloquence parlementaire, mais qui représente absolument son suicide politique. La gloire, c'est bien joli, mais Chateaubriand est perclus de dettes. Il se décide alors à écrire de nouveau. Quoi ? Les études historiques en 4 volumes. Il prend aussi le temps de rédiger une brochure qui s'intitule « De la restauration et de la monarchie élective » ou « Réponse à l'interpellation de quelques journaux sous mon refus de servir le nouveau gouvernement ». Le projet est de vendre la maison de la rue de l'Enfer, de purger les hypothèques grâce à la vente de ses écrits et d'acheter un petit manoir en Suisse. Alors il charge Madame Récamier de vendre la maison et il part avec ses laisses direction Lyon. Le vicomte y rencontre même Thiers. Ils arrivent à Genève, ils louent un appartement modeste. L'arrivée fait du bruit, Chateaubriand est absolument encensé, invité aux places d'honneur à toutes les fêtes de la ville, et il écrit. C'est à Genève que les mémoires vont prendre forme. La maison de la rue de l'Enfer n'est pas vendue. Finalement, Chateaubriand revient, s'y réinstalle le 18 octobre 1831. Et voilà qu'un club républicain fait demander au vicomte si, en cas de renversement du régime, il accepterait la présidence de la République. Il répond oui, certainement, mais après Monsieur de Lafayette. Voilà qu'un malheur s'abat sur la France, le choléra. La maladie s'étend avec une rapidité foudroyante. On compte bientôt 200 décès par jour à Paris. La duchesse du Berry essaye de comploter contre le régime pour mettre son fils, qu'on va appeler Henri V, sur le trône. Elle est arrêtée et elle envoie alors une lettre à Chateaubriand pour qu'il l'aide. La lettre est interceptée et le vicomte est conduit en prison. Tout à coup, sa porte s'ouvre, c'est le préfet de police. Et le préfet de police, il lui propose, au lieu de rester à la prison, une chambre chez lui, en guise de prison. Chateaubriand commence par refuser, car il tient à son rôle de héros, et puis il est forcé de céder. Alors, il est autorisé à recevoir des visites. Cependant, il doit répondre aux questions du juge d'instruction. Alors finalement, on trouve qu'il n'y a pas lieu de l'interner, et au bout de 15 jours, on le relâche. Il décide alors de quitter la France, départ vers la Suisse. On s'arrête à Bâle, où Chateaubriand admire la danse macabre du peintre Holbein. Il visite Lucerne, il arrive à Lugano, où il veut s'installer. Madame Récamier a pris prétexte d'aller voir la reine Hortense. La reine Hortense, elle est en Suisse. Et elle prend la route de Suisse. Arrivée, elle envoie un message à Chateaubriand, qui aussitôt prend la route de Constance, où Juliette est descendue et la reine Hortense aussi. Ils se promènent, traversent le lac, et en revenant, ils aperçoivent la reine Hortense et son second fils. Son second fils, c'est Louis-Napoléon, le futur prétendant bonapartiste au trône de France. Tous deux demandent à Juliette et à François-René de venir dîner le lendemain à Arenenberg. Le vicomte n'ose pas refuser. Louis-Napoléon accueille ses visiteurs. Il se comporte plus en souverain d'ailleurs qu'en prétendant parce qu'il passe le premier partout. Chateaubriand est d'une parfaite courtoisie et son amabilité met tout le monde à l'aise. Finalement, François-René et Céleste s'installent dans le quartier historique du vieux Genève. En dépit de son travail, Chateaubriand traverse une crise qu'il ne surmonte pas. Il vieillit mal, en fait. Il parle de la mort. Il rêve de disparaître. Il dit « Tiens, ça serait bien si je disparaissais dans une crevasse du Mont-Blanc. » Il prend conscience de sa vieillesse. Madame Récamier vient lui rendre visite. Il ressuscite alors. Il travaille le matin, se promène avec Juliette le soir. Elle pense que le vicomte doit rentrer à Paris. Si bien que tous les deux décident de rendre visite en attendant à Coppet. Pourquoi Coppet ? Ben Coppet, c'était le château de Madame de Staël. Bon, elle est morte, hein. Donc, ils vont faire une visite, en souvenir, le 25 octobre 1832. Madame Récamier repart à Paris, si bien que le 8 novembre 1832, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose d'important, la duchesse de Berry est arrêtée, dans des conditions dramatiques. Je vous l'ai raconté parce que je vous ai raconté la vie de la duchesse de Berry. Chateaubriand part alors pour Paris, bien décidé à consacrer son dévouement à la mère du petit roi en exil. Pour lui, le roi, c'est Henri V, hein. Louis-Philippe a fait enfermer la duchesse à la citadelle de Blaye et ses fidèles sont surveillés par la police. Le vicomte n'est même pas autorisé à lui écrire. Il fait alors paraître une brochure qui s'appelle « Mémoire sur la captivité de Madame la duchesse de Berry ». Et la brochure se vend très bien. Seulement l'embêtant, c'est que c'était évidemment contre le roi. Alors le 25 janvier 1833, la chambre d'accusation ordonne des poursuites contre le vicomte de Chateaubriand. Et lui, il n'est pas mécontent de jouer les martyrs une nouvelle fois. Nous allons faire une dernière pause musicale. Thank you. Le procès est fixé au 26 février. Le jury prononce un acquittement général. Une foule immense attend Chateaubriand. Et la foule se met à hurler « Vive la liberté de la presse ! Vive Monsieur de Chateaubriand !» Il continue, rue de l'Enfer, de rédiger ses mémoires en compagnie du gros chat. Eh bien, ce gros chat, figurez-vous que c'est le pape Louis XII qui le lui a légué. C'est un chat qui est gris et roux. Madame Récamier en est la première lectrice et elle organise même des lectures partielles dans son salon. Qui écoute ces lectures? Ben, je vais vous le dire parce qu'il y a quand même des gens connus. Il y a Sosthène de La Rochefoucauld, il y a Adrien de Montmorency, le duc de Noailles, Sainte-Beuve, Edgar Quinet, Jean-Jacques Ampère. Tout Paris parle de ces séances, en particulier d'un fragment intitulé « L'avenir du monde ». C'est le jugement le plus lucide porté à l'avance sur l'évolution politique du XXe siècle. On peut dire qu'il place Chateaubriand parmi les plus éclairés de tous les visionnaires. Il sonne le glas de Louis-Philippe et des autres royautés. Et je le cite. « L'Europe court à sa démocratie. Les rois s'entêtent à garder ce qu'ils ne sauraient retenir. » Ou encore, « La trop grande disproportion des conditions et des fortunes a pu se supporter tant qu'elle a été cachée. Mais aussitôt que cette disproportion a été perçue, le coup mortel a été porté. » En avril 1835, Chateaubriand vend pour 36 000 francs la traduction du « Paradis perdu » de Milton et d'un essai sur la littérature anglaise. Ça renfloue un petit peu ses finances. Le 16 mai 1835, il fait la connaissance de Georges Sand, dont il parle d'ailleurs dans ses mémoires. En juillet, il fait un séjour à Dieppe avec Madame Récamier et le duc de Noailles. Et ce dernier trouve le vicomte bien sympathique et l'invite à séjourner chez lui à Maintenon. Il y viendra plusieurs fois. L'année 1836 débute de façon heureuse. Le traité de vente des mémoires assure la sécurité des dernières années. Cette année 1836, dans la nuit du 5 au 6 novembre, meurt Charles X. 1837, tout le monde tombe malade. Madame Récamier perd la vue. Célès et Chateaubriand ont des crises de rhumatisme extrêmement violentes. Alors du coup, Chateaubriand, il écrit son testament. 1838, déménagement dans un appartement d'un bel hôtel rue du Bac. Et Chateaubriand décide d'un voyage. Il part le 10 juillet. Arrêt à Bourges, où il est ovationné. Rodez, Albi, réception triomphale. Le 10 juillet, il assiste à Toulouse à une séance solennelle de l'Académie des Jeux Floraux. Il y fait la connaissance du comte de Castelbajac. Après Toulouse, c'est Montpellier, puis Aigues-Mortes, Nîmes, Marseille, Cannes, Lyon, où il est abondamment flétré. Retour à Paris. François René se rend parfois à une séance de l'Académie. Il y apporte son suffrage pour faire élire Victor Hugo. Mais il vieillit. Et quelqu'un qui s'appelle Vitrolles écrit « La vieillesse avait encore augmenté la sécheresse de son cœur et la monotonie de son caractère. Tout occupé qu'il était encore de sa renommée, il ne pardonnait pas au monde de lui survivre. » Même avec Madame Récamier, il se montre parfois impatient. En 1841, il se dévoue à une cause qui le passionne subitement, la défense des chrétiens d'Orient. Pour soigner ses rhumatismes, il fait une cure à Néris-les-Bains, puis une deuxième cure. Et bien là, il se foule la jambe. Lorsqu'il écrit à Madame Récamier, il signe « Le pauvre impotent ». En avril 1843, Custine note « La vieillesse rend le grand écrivain envieux et imprudent ». Au cours de l'année 1843, le comte de Chambord séjourne en Angleterre. Il y invite Chateaubriand. Et bien, malgré ses rhumatismes, il part. Il se rend à Boulogne, où la population l'ovationne. Dommage que l'argent ne suive pas. Donc, arrivé à Londres, le comte de Chambord, c'est-à-dire le futur Henri V, s'il avait régné, installe le vicomte dans un petit hôtel particulier à Belgrave Square. Le 28 novembre a lieu une réunion d'environ 300 Français, autour du pseudo-roi. Ce dernier s'adresse à Chateaubriand et lui dit « Monsieur de Chateaubriand, asseyez-vous de grâce que je puisse m'appuyer sur vous. J'ai voulu paraître à vos yeux entouré non pas du prestige de ma décence, mais appuyé, mais fier, je le répète, de m'appuyer sur les plus fermes amis que le ciel dans sa bonté m'a laissés, le plus beau génie de notre époque. » Alors pour le vicomte, c'est un moment triomphal. Eh bien, à Paris, on juge les choses autrement. On pense que l'on se sert de lui, finalement, et qu'il n'a plus aucune influence. Il revient. Mai 1845, il reçoit le comte de Chambord, qui lui avait écrit une lettre, et le comte de Chambord dit « Je repars à Venise, vous venez avec moi ». Donc Chateaubriand part le 26 mai 1845. Le comte de Chambord a fait réserver pour son hôte un appartement voisin du sien au Danieli. Danieli, c'est l'hôtel superbe de Venise. Hein. Promenade en gondole, dîner, il rentre par Gênes et Marseille, s'arrête à Avignon où il est encore ovationné. De retour à Paris, il est invité à Maintenon par le duc de Noailles. Il s'y rend. Chateaubriand souffre de plus en plus de rhumatisme qui le condamne presque à l'immobilité. Il ne peut plus rendre visite à Juliette. Eh bien alors, c'est elle qui vient, guidée par une amie parce qu'elle est presque totalement aveugle. Le 16 août 1846, le vicomte fait une chute et se casse la clavicule. Il perd complètement l'usage de ses jambes. Madame de Chateaubriand, elle, meurt brusquement le 8 février 1847. Juliette ne peut plus se rendre chaque jour rue du Bac. Alors Chateaubriand s'y fait porter. Il propose à Madame Récamier alors de l'épouser. Et elle lui répond, un mariage, pourquoi ? À quoi bon ? À nos âges, quelle convenance peut s'opposer aux soins que je vous rends ? Si la solitude vous est une tristesse, je suis toute prête à m'établir dans la même maison que vous. Si nous étions plus jeunes, je n'hésiterai pas. J'accepterai avec joie de vous consacrer ma vie. Ne changeons rien à une affection parfaite. La déchéance physique de Chateaubriand s'accentue. Sainte-Beuve dit « Monsieur de Chateaubriand ne dit plus une parole ». La dernière semaine de février 1848 voit sombrer en 48 heures le régime. Alors il entend du bruit dans la rue et il arrive à bredouiller. Que se passe-t-il ? On lui dit que Paris vient de renverser la monarchie de Louis-Philippe. Eh bien, il arrive à dire « c'est bien fait ». Madame Récamier, complètement aveugle, est à ses côtés. Le 2 juillet, Chateaubriand va si mal qu'on envoie chercher un prêtre pour lui donner l'extrême-onction. Il avait dicté à son neveu, Louis de Chateaubriand, quelque chose, parce que longtemps on a cru qu'il était athée, malgré le génie du christianisme. Et voilà ce qu'il a dit. « Je déclare devant Dieu rétracter tout ce qu'il peut y avoir dans mes écrits de contraire à la foi, aux mœurs et généralement aux principes conservateurs du bien. » À 8h15 du matin, le 4 juillet 1848, François-René s'éteint. Madame Récamier lui tient la main. Après la cérémonie, Chateaubriand s'achemine vers la demeure qu'il s'est choisie, le Grand B, au large de Saint-Malo. Au revoir à tous.